Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Greetings in the name of His Majesty Emperor Haile Selassie, Jah Rastafari, ever living, ever faithful, ever sure, Selassie I the first. Yeah. Yeah. Rastafari, ever living. Rastaman vibration, positive. Rastaman vibration, yeah.
Positive.
Live if you wanna live, I and I vibration, yeah.
Positive.
Got to hunger for the vibe, I am an iration, yeah. Positive vibration,
nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un grand classique de l'histoire du reggae, Positive Vibration, extrait du fameux album Babylon by Bus de Bob Marley and the Wailers, enregistré en grande partie à Paris en juin 78, à une époque où Robert Nesta Marley semblait au sommet de son art et de sa forme, comme va nous le confirmer notre invité du jour, le journaliste, auteur, réalisateur, photographe et amateur de reggae, Alain Gardinier. Soyez le bienvenu.
Tout ça ? Ah ben bonjour, ça fait plaisir.
Vous êtes en duplex de Bayonne, dans le sud-ouest de la France, grâce aux moyens techniques de nos confrères de France Bleu Pays Basque, que je remercie au passage. Et nous allons évoquer avec vous le regretté Bob Marley, disparu il y a 40 ans, le 11 mai 1981, à l'âge de 36 ans, et ce, à l'occasion de la parution d'un livre dont vous êtes l'auteur, intitulé « Bob Marley et la légende du reggae ». Car à travers votre portrait de Bob Marley, vous comptez aussi celle d'une forme d'expression, d'une culture, dirais-je, qui prend sa source en Afrique. D'ailleurs, Angélique Kidjo préface votre ouvrage. Diriez-vous que le reggae est d'abord une musique africaine ?
Je pense qu'effectivement, dans les rythmes, dans les percussions, dans le groove, je pense qu'effectivement, elle vient de là. Et quand on discute justement avec Youssou N'Dour ou Angélique Kidjo, ils disent, mais nous, quand on était gamins, on écoutait cette musique parce que ça soit à Cotonou, à Abidjan ou à Dakar, elle nous parlait parce que on la ressentait fortement, on la ressentait quelque chose qui nous appartenait, quelque chose qui venait de nos entrailles. Donc je pense qu'effectivement, c'est carrément le cœur de l'Afrique qui bat dans le reggae. Et puis, la famille Marley, du côté maternel, vient de Guinée, fils d'esclave. Donc, il y a vraiment, on peut remonter assez loin. Effectivement, moi, je pense que le reggae, c'est l'Afrique.
En tout cas, les liens que Bob Marley entretenait avec le continent africain étaient profonds. Quand découvre-t-il la terre de ses ancêtres pour la première fois? Et quel pays choisit-il pour sa première visite transatlantique?
Alors, il rêvait d'y aller, mais en même temps, c'était assez compliqué, les moyens techniques pour aller là-bas, etc. Et au début, ce sont des jeunes gars de Côte d'Ivoire qui avaient décidé de le faire venir pour des concerts à Abidjan. Et d'ailleurs, dans mon livre, je reproduis l'affiche, qui est marrante, parce qu'on voit Abidjan avec les dates. Ça n'a pas fonctionné, c'était après l'attentat dont il avait été victime, donc il n'était pas vraiment en forme. Et puis, il y a eu cette occasion bizarre d'aller jouer à Libreville, au Gabon. Pascaline Bongo, la fille du président, le drap, et puis lui se dit, mais tiens, pour moi, c'est l'occasion d'aller voir l'Afrique. Alors maintenant, plein de gens se disent, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-dedans, quoi? Il sait quand même pas. Mais je crois qu'à l'époque, voilà, il faisait confiance à des gens, à son fameux manager, il faisait confiance à des gens qui l'ont un petit peu grugé. Mais l'Afrique, pour lui, ça a vraiment été finalement le concert au Zimbabwe, enfin, en Rhodésie, le jour de l'indépendance. Il a donné deux shows là-bas. Je pense que là, ça a été vraiment l'ouverture au monde africain. Mais voilà, il a toujours eu des rapports un peu compliqués, pas conflictuels, mais compliqués du fait que que quand il fallait bouger, ça demandait énormément de matériel, qu'ils voulaient tous recevoir Marley, mais que personne ne voulait payer. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Et puis, il y a eu aussi ce séjour qu'il a fait, bien sûr, en Éthiopie, à Addis Abeba. Il y avait un endroit où tous les Rastas déçus de Jamaïque étaient allés se réfugier à l'époque. Donc, il les a retrouvés là-bas. Et ça, pour lui, ça a été... Ziggy m'a raconté que son père avait été transformé par cette visite en Éthiopie.
Justement, j'allais vous demander pourquoi l'Éthiopie a tant de valeur pour les Jamaïcains.
Alors, il y a vraiment, c'est la base de la culture Rasta, puisque pour certains, dont Marcus Garvey, ces gens-là qui ont promu cette idée selon quoi un jour un roi viendrait d'Afrique et que ce roi serait le chef du mouvement Rasta, il s'est trouvé que, je ne vais pas dire par incidence, par hasard, non, il y a quand même une part fonctionnelle, mais disons que Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, est né, et tout d'un coup, c'est devenu le Négus, l'empereur des Rastas, et donc ce petit bonhomme, roi d'Éthiopie, s'est retrouvé promulgué Dieu vivant en Éthiopie. Donc c'était paradoxal, mais même pour lui. Et donc en 66, il est allé là-bas pour la première fois. L'accueil a été exceptionnel. On peut se dire, oui, c'est de toute façon s'inventer toute pièce, ou alors il y a un fond mystique qui existe, mais en tout cas, il est clair qu'Haïlé Sélassié est pour eux Jah Rastafari. Donc c'est vraiment ça, le dieu vivant, qui est maintenant bien sûr décédé. Donc ce lien avec l'Éthiopie était très 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 fort. Et quand il est allé là-bas en 66... Plein de Rastas ont dit, nous en Jamaïque, on se sent persécuté, on se sent pas du tout bien. Donc il a créé une colonie à 200 km au sud d'Addis Abeba, où il a donné des terres à tous les jeunes Jamaïcains ou les anciens Jamaïcains qui voulaient s'installer là-bas. Il y a eu une migration qui n'était pas énorme, enfin il y a eu quand même 2 à 3 000 Rastas. Puis après, ça s'est pas trop bien terminé parce que quand le gouvernement ensuite dictatorial en 75 est arrivé, ils n'en avaient plus rien à faire quoi des Rastas.
Quel est l'album le plus africain de Bob Marley à vos yeux?
Je pense que ce sont les premiers. Catch a Fire Burning. Et en même temps, je vous dis ça, mais Catch a Fire Burning, il y a eu quand même l'apport de plein de musiciens anglais quand ils sont allés mixer en Angleterre, qui ont amené des guitares, des claviers, tout ça. Mais quand même, au fond de ça, il y a la pure rythmique reggae que lui a amené les frères Barrett. Quand Bob Marley a commencé, il y avait quand même ces deux jeunes musiciens qui sont devenus ses compagnons à vie, qui étaient des musiciens, des membres des Upsetters, les deux frères, le batteur et le bassiste. Et eux ont amené ce groove africain, ont amené cette sensibilité reggae. Donc je pense qu'au début, quand Bob Marley composait, il était vraiment là-dedans, dans le cœur africain, les percussions et tout. Moi, je pense qu'un album qui est vraiment très très fort et qui... couvre ça et qui a ce côté, ce beat africain, c'est Natty Dread. Je trouve que Natty Dread est un album incroyable avec cette entrée avec Lively Up Yourself, qui est une fête incroyable qui donne envie de danser. Et puis juste après, ce tempo lancinant de No Woman No Cry. Enfin, je veux dire, c'est un album qui monte crescendo et qui puise effectivement, je trouve, pas mal dans les racines africaines au niveau de la rythmique.
Et Survival alors?
Survival, c'est effectivement, il est allé puiser dans l'Afrique, mais j'ai l'impression qu'il raconte plus l'Afrique plutôt qu'il s'en inspire. Mais c'est une opinion personnelle. Je trouve qu'il est moins peut-être dans les purs rythmes africains, mais peut-être que je me trompe.
Voici Zimbabwe.
Allons-y.
Zimbabwe, city top, Zimbabwe,
Zimbabwe, Bob Marley en 1979 sur l'album Survival. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alain Gardinier, auteur de Bob Marley et la légende du reggae, paru chez Grund Édition. Un ouvrage très complet qui suit la destinée de Robert Nesta Marley à travers l'évolution politique et sociale de la Jamaïque. Et d'ailleurs, l'engagement citoyen de Bob Marley transpire dans votre récit. Je pense notamment aux années 1976-1978. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte politique d'alors et la raison pour laquelle Bob Marley a échappé de peu à un attentat ?
Je crois que pour plein de gens, la Jamaïque, c'est le soleil, la ganja et tout. Et en fait, la Jamaïque a été secouée par des problèmes, des soubresauts politiques énormes qui étaient inhérents à la pauvreté quand même, à la fin de la colonisation. Donc c'est vrai que depuis la fin des années 70, se sont heurtés deux grands mouvements. Donc d'un côté, il y avait Michael Manley qui était le, entre guillemets, communiste qui prônait des idées assez révolutionnaires, et Edward Seaga du PNP qui était un type très 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 droite, même à l'extrême droite. Donc en fait, deux blancs évidemment en plus. Donc tout ça a fait que ça s'est exacerbé, que les luttes sont devenues intestines, puis ensuite se sont répandues dans la rue à coups de mitraillettes. Donc je veux dire, les années 70 en Jamaïque, c'était la guerre, la guérilla absolument tous les jours. Donc Bob Marley s'est retrouvé au milieu de ça. Ces deux chefs, et surtout ces gars, s'appuyaient sur des chefs de gang. Et ces chefs de gang étaient des copains de Marley, qu'il avait connus à l'école, au lycée, comme Claudie Massop. Donc il était d'autant plus révolté. Et justement, les choses ont tourné quand ces gens-là ont pu approcher Marley. À un moment, ils ont décidé d'une trêve. Il y a eu un concert, le fameux concert pour la paix. Ça n'a rien réglé. Mais disons qu'il a été partie intégrante de ça, parce qu'il voulait absolument que ça cesse. Donc il a tout fait pour que ça s'arrête. Il s'est vraiment investi jusqu'à cette fusillade où, de toute façon, il a été pris pour cible. Mais enfin, il semble assez évident que le mouvement de droite d'Edward Seaga ait commandité son assassinat, parce qu'il était absolument trop près de la gauche, entre guillemets, progressiste. Et là, ça l'a profondément choqué. Il se voyait comme, et ce qu'il était, comme un artisan de la paix, hein, et tout d'un coup, on le voyait comme quelqu'un qui, au contraire, il fallait le descendre, quoi. Donc je pense qu'il s'en est tiré assez bien. Personne n'est mort dans cette fusillade, des gens ont été blessés, mais ça l'a profondément marqué. Ce qui est normal, quand tout d'un coup, on veut la paix, qu'on vous tire dessus, c'est difficile. On en connaît d'autres, hein, les Luther King, enfin, il y en a eu d'autres. Mais c'est à ce niveau-là. Je pense que Bob Marley, à l'époque en Jamaïque, pouvait tout révolutionner, pouvait essayer d'amener la paix. Et puis il faut savoir qu'il y avait la Jamaïque. Mais tout d'un coup, c'est la décolonisation. On prend le pouvoir, mais qui prend le pouvoir? Qui va pouvoir gérer tout ça? Est-ce que ça va être des gens comme Seaga, qui étaient complètement, pas manipulés, mais il était en contact direct avec la CIA? D'ailleurs, sur les murs de Kingston, on voyait marqué Seaga, CIA, avec son nom pour un jeu de mots. Et puis l'autre qui était pour eux un dangereux communiste, et n'oublions pas que la Jamaïque est pas loin de Cuba, donc les Américains flippaient. Cet État était complètement... Donc on oublie ça dans la musique de Marley, mais c'est très présent.
Alain Gardinier, revenons un peu en arrière. Est-ce qu'il est pertinent de dire que la condition sociale du jeune Bob Marley, né d'un mariage mixte dans un pays sous domination britannique, a très tôt nourri son âme de rebelle? Était-il voué à devenir un insoumis?
Je pense que c'était fort chez lui, mais en même temps, la condition de la Jamaïque le révoltait, mais par contre, ça n'avait pas grand-chose à voir avec son côté métis. C'est-à-dire que, bon, voilà, quoi. Son père avait 60 ans, sa mère 15 ans, son père a disparu de sa vie. Lui, tout, c'était vraiment la Jamaïque, sa famille jamaïcaine, sa famille qui descend d'esclaves de Guinée, qui s'est installée là-haut à 9 miles dans la campagne. Donc, il vivait de ça. Donc, effectivement, il a vu tout ça, il a vu que les Blancs étaient là, que les Blancs avaient la main mise sur l'île. Ça l'a, entre guillemets, révolté. Il a fait plein de chansons là-dessus. Mais c'était pas personnel par rapport à son père. C'était l'état de la Jamaïque qui le heurtait, la pauvreté. Il est allé travailler aux États-Unis à la chaîne. Mais je pense qu'il était passé outre. Il est revenu après dessus. Mais c'était pas un combat de tous les instants. J'ai pas l'impression que dans tous les albums de Marley, il y a des chansons qui disent « Oui, vous les Blancs, vous êtes des... » Il y a « Rat Race », il y en a, bien sûr. Mais... ce n'est pas que le socle de son travail. Souvent, j'entends ça. Oui, c'était un rebelle. Toute sa vie, il n'a eu de cesse de... Je ne pense pas. Je pense que c'était important pour lui de se battre contre les injustices sociales, contre la pauvreté, contre la mainmise des Blancs. Mais ce n'était pas une obsession.
Quand il enregistre Hypocrites en 68 ou Soul Rebel en 70, est-ce que c'est du militantisme?
Oui, je pense que ça l'est, ça l'est. Au début, il l'a été beaucoup plus. Après, c'est normal, c'est ça. Il pouvait pas quand même passer sa vie à faire des albums durs, militants. Il a quand même fait des albums où il a fait une chanson qui s'appelle Kaya sur le plaisir de fumer de la ganja. Je pense que c'est un personnage assez complexe qui allait un petit peu dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'au début de sa carrière, les premiers titres qu'il a enregistrés avec Coxon ou qu'il a enregistrés avec tous ses producteurs jamaïcains étaient forts. Mais il faut savoir aussi qu'il avait autour de lui Peter Tosh et Benny Weller, puisque les Wellers étaient un trio. Et si Benny Weller était un petit peu à l'écart, Peter Tosh était extrêmement militant et beaucoup plus que lui. Et c'est Peter Tosh qui a quand même poussé là. C'est Tosh qui a quand même écrit la plupart de ces morceaux-là. Et Tosh était quelqu'un de beaucoup plus impliqué politiquement que Marley. Marley l'est vite devenu, mais voilà, je pense que c'est ce duo qui a tout explosé, quoi. D'ailleurs, Tosh était un type bouillant. Quand Chris Blackwell, le fameux producteur des Disc Island, a confié de l'argent aux trois Wellers, leur a fait confiance et leur a dit « Vous allez enregistrer un disque », il les a vraiment sauvés de la merde. Hein. Ils étaient perdus en Angleterre, ils n'avaient même pas de quoi se payer le billet de retour. Bob Marley a toujours été reconnaissant envers Chris Blackwell, Benny Weller aussi. Par contre, Peter Tosh l'appelait Chris White Hell, l'enfer blanc. Il l'appelait le serpent. Enfin, je veux dire, Peter Tosh, lui, était profondément radical.
Je vous propose, Alain Gardinier, d'écouter le jeune Bob Marley en 68. Il chante Hypocrites, il n'a que 23 ans. Hypocrites, l'un des premiers enregistrements reggae de Bob Marley en 1968. Alain Gardinier, est-ce que l'indépendance de la Jamaïque en 1962 a transformé le paysage musical de cette île des Caraïbes ?
Je pense qu'en fait, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais effectivement, c'est-à-dire que juste après l'indépendance, les hôtels à Kingston, comme le Hilton, fonctionnaient avec des groupes un petit peu de... D'ailleurs, il y avait un groupe qui s'appelait les Hiltoners, donc c'est pour dire, ils étaient vraiment le groupe maison. Il y a eu encore du tourisme. Après un an ou deux, le tourisme est revenu, donc ils ont continué à faire du mento, toutes ces balades caribéennes du coin, et puis il y a eu le ska, et puis voilà, ça dormait un petit peu. Mais effectivement, tout d'un coup, ce son est devenu... le son jamaïcain, c'est-à-dire qu'il y a eu l'appropriation grâce au sound system. Tout d'un coup, les Jamaïcains se sont dit « mais cette musique caribéenne, c'est la nôtre ». C'est-à-dire qu'il y a celle qui est un petit peu folklorique, avec des marimbas, etc. Et puis il y a la nôtre qui est basse, batterie, et puis allons-y, on va créer un rythme chaloupé. Donc c'est vrai que tout d'un coup, ça a coïncidé avec l'indépendance, c'est notre musique. Et puis cette musique-là a fait danser les Jamaïcains, et puis ils se sont rendus compte économiquement qu'ils ont commencé à la vendre un petit peu aux communautés jamaïcaines qui étaient un petit peu dispersées à travers le monde, à Londres, à Toronto, à New York. Ces gens-là achetaient des disques, donc ça crée une petite économie. Et puis après, c'est devenu ce qu'on sait avec Bob Marley, tous ces artistes, avec Island Records, et c'est devenu une énorme machine internationale. Puis vous savez aussi que les Jamaïcains étaient fous de musique américaine, parce qu'ils sont juste à côté, ils captaient les radios du Miami.
Bien
donc
sûr.
Ils étaient très forts en soul music, ils adoraient toutes ces musiques-là. Donc il a fallu un peu de temps pour que le ska et ensuite le reggae s'installent et que ça devienne vraiment une musique jamaïcaine. Mais bien sûr, ça a collé à l'indépendance, oui.
Alain Gardinier, j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis que j'ai lu votre livre et à laquelle vous ne répondez pas vraiment. Qui a inventé le reggae ? Est-ce que c'est Bob Marley ? Est-ce que c'est Jimmy Cliff, Tootsie Bird, Bunny Wailer, Peter Tosh, Clement Coxon, Lee Scratch Perry ?
Alors, il y a eu tous ces producteurs, tous ces artistes, mais on oublie souvent les musiciens. Et moi, je pense que si j'ai bien compris, ce sont les musiciens. Par exemple, les deux frères Barrett, sont, qui ont accompagné Bob Marley du début à la fin, sont primordiaux. Pourquoi ? Parce que c'était des musiciens de studio, au sein d'un groupe qui s'appelait les Upsetters, avec Lee Perry. Et quand tout d'un coup, le ska, qui était sautillant, s'est calmé, est devenu plus chaloupé, c'est du fait de ces musiciens. Parce qu'en fait, ces musiciens étaient là, et tout d'un coup, ils ont commencé à imprimer un rythme basse, batterie, un peu plus tranquille. Et puis, ça a créé ce son de reggae. Alors, Toots, de Toots and the Maytals, a écrit un morceau en 1968 s'appelait Do the Reggae. Le terme vient normalement de là, mais c'était encore du ska. Les premiers morceaux de Marley, c'est du ska. Mm. Et puis tout d'un coup, de lui-même, il a écrit les mêmes morceaux, mais les musiciens ont créé des arrangements différents, des arrangements, plus chaloupés. Et tout d'un coup, le reggae est né dans les studios de fait de ces mecs-là. Donc pour moi, ce n'est pas un artiste précis, ce sont tous ces session men, tous ces mecs, en particulier les frères Barrett, qui jouaient sur tous les albums, sur les albums de tout le monde. Quand je parle à Family Man, il dit non, mais moi j'ai joué à l'époque avec Cliff, avec Dr. Alimentado, avec tout le monde, quoi. Mm. C'est ce noyau de 7-8 musiciens a décidé de ralentir le tempo et ils ont créé la base du reggae moderne.
Alain Gardinier, vous n'êtes pas le premier à avoir écrit sur Bob Marley. Pourquoi, vous, êtes... Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cet ouvrage ? Est-ce que ce sont vos souvenirs, votre expérience de journaliste, votre vécu de spectateur et vos rencontres avec les contemporains de Bob Marley qui ont accéléré finalement l'écriture de ce livre et lui donne peut-être plus de légitimité ?
En fait, moi j'ai une, entre guillemets, carrière un peu hétéroclite. J'ai fait différentes choses, effectivement journaliste de musique, mais après j'ai fait beaucoup de vidéos. J'avais une société de production de vidéos, donc je me suis un peu écarté de tout ça. Et puis là, j'avais plus de temps et j'avais envie d'écrire un livre sur la musique. Il se trouve que le hasard a fait que mon ami Laurent Mariotte, vous savez, le fameux cuisinier, chef, qui est un mec formidable, Laurent m'a dit, mais Alain, mais qu'est-ce que tu fais quoi ? J'ai envie de te lire, J'ai fait d'autres livres sur d'autres sujets, sur la musique, vas-y et tout. C'est Laurent qui a été un peu l'entremetteur. Et puis, et en discutant, et je me suis dit, mais dans un an ou dans 9 mois, ce sont les 40 ans, c'est une opportunité. Et j'ai toujours eu envie de raconter l'histoire de Marley, parce qu'il y a eu des bouquins qui ont été faits, et à chaque fois, j'étais un petit peu frustré. Parce qu'il manquait, ou il y avait des erreurs. Mon âme de journaliste faisait que je regardais pour vérifier. Je me dis, mais non, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc en fait, je me suis dit, tiens, effectivement, c'est peut-être opportuniste, mais je me dis, il y a les 40 ans de Marley, ça devrait intéresser un éditeur. Pourquoi pas me plonger là-dedans ? Donc effectivement, je suis parti là-dedans parce que j'ai toujours aimé sa musique, j'ai toujours aimé le reggae. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours gardé un petit peu plein de documents, des pages de Libération, puis j'avais les bouquins d'Hélène Lee, de Bruno Blum, qui sont tous vachement bien. Mais il me manquait, moi, un côté vulgarisation, ce que j'ai fait là, c'est-à-dire en parlant aussi des voitures de Bob Marley, en parlant du football, en parlant des chaussures Clarks. Donc en fait, j'avais envie de ça, et grâce à Laurent, qui m'a un peu poussé aux fesses, il m'a dit, mais écris un livre de musique, c'est ce que tu sais faire, t'aimes ça. J'ai dit, mais t'as raison. Et donc je voulais un sujet qui soit pas clivant, quelque chose qui porte les lecteurs, mais qui me porte aussi. Et j'avoue que ça m'a porté, je me suis régalé à le faire. J'ai retrouvé mes vieux trucs à Kingston, et puis j'allais sur Internet, et je disais, ah mais la rue machin, elle a changé, tiens, cette boutique, elle n'y est plus. C'est ce travail de, on ne va pas dire investigation, mais de recherche est vraiment sympa, que ça soit sur Marley ou autre chose. Mmh. Mais là, sur Marley, d'autant plus, parce qu'il y a la notion de voyage, il y a la Jamaïque, il y a tous les musiciens, il y a la famille, il y a les gosses, il y a un univers absolument incroyable.
Quel enthousiasme ! J'imagine que vous avez vu Bob Marley en concert.
Au Bourget, une fois.
Et quel souvenir en avez-vous ?
J'ai pas été bouleversé. Par contre, j'étais absolument estomaqué, moi, la première fois que j'ai écouté Natty Dread. Voilà. Pour moi, ça a été un déclic. J'étais gamin et puis j'avais lu dans je ne sais plus quel magazine, Rock et Folk, Best, les Extra, les magazines que je lisais, une chronique de ce disque en disant, voilà, il a déjà sorti des albums, passé inaperçu, celui-là est bien. Et j'avais posé ce truc-là sur ma platine, Lively Up Lost. Et là, franchement, pour moi, ça a été l'album Natty Dread, a été une foutue révélation, l'un des 5 albums que j'écoute le plus depuis 40 ans.
Je regarde en régie finale et Nathalie Laporte, la réalisatrice de cette émission, m'indique que nous avons cela en magasin. Voici donc Lively Up Yourself, Natty Dread, c'est l'album et ça date de 1974. Lively Up Yourself, c'était Bob Marley, un titre choisi par notre invité du jour, Alain Gardinier, dont je recommande bigrement le dernier livre, Bob Marley et la légende du reggae, paru chez Grund Édition et pétri de 1000 petites informations qui vont des chaussures, les Clarks que portaient les Jamaïcains, à la gastronomie italienne dont vous donnez les recettes, en passant par les dreadlocks ou le 56 Hope Road, le QG de Bob Marley, sans oublier évidemment le football, une passion qui sera fatale à Bob Marley puisque c'est une blessure à l'orteil qui déclenchera son cancer. Pour terminer sur une note positive, j'aimerais que vous me parliez du conte de fées qu'a vécu David Kerol. D'abord, qui est-il et que lui est-il arrivé ?
Alors, David Kerol est un super musicien de ma région, du Pays Basque, qui est imprégné par le reggae, qui fait de très jolis disques, de très jolis morceaux. Et David est vraiment investi dans le reggae à fond. Quand il y avait eu le film, ce Bob Marley, il y a 4-5 ans, qui avait tourné à travers la France, il était avec le film, il présentait le film et il jouait avec son groupe dans les salles de cinéma. C'est un passionné, c'est un mec lunaire, c'est un très bon compositeur. Il se trouve que... c'est un copain, je le croise dans notre activité de surf, parce qu'on fait beaucoup de surf tous les deux. Et voilà, et David, l'année dernière, me dit « Tiens, mais je reviens de Jamaïque, j'étais déjà allé, mais j'ai pu enregistrer là-bas avec les meilleurs. J'ai pu enregistrer aussi avec Chyna Smith, le guitariste de Marley, avec Judy Mowat, la choriste de Marley, etc. J'ai vécu un rêve, j'ai été remarqué par les voix, etc. » Il me raconte ça. Et puis, quelques mois après, quand il s'est trouvé que je me suis dit « Je vais faire cette bio de Marley », j'ai repensé à David. Et je lui ai dit « Mais raconte-moi ça. » Donc effectivement, il la raconte sur 6 pages du livre avec des photos géniales. Il raconte cette aventure jamaïcaine où il s'est retrouvé en concert là-bas à Kingston. Enfin, il a vécu un truc formidable. D'un côté, ça me faisait super plaisir de pouvoir le mettre en avant parce que j'adore son travail, j'adore le mec. Et de l'autre côté, c'était bien aussi pour moi parce que quand on parle de Marley, on parle de choses qui sont passées il y a 40 ans et 50 ans. Et là, tout d'un coup, avec David, on est dans la Jamaïque des années 2020 où il est en studio, il raconte comment ça se passe, les mecs. Moi, j'adore son récit, donc je l'ai mis in extenso dans le livre.
La suite est donc à lire page 194 de votre livre, Bob Marley et la légende du reggae. Merci beaucoup Alain Gardinier de votre enthousiasme communicatif.
Ah mais merci à vous, c'était vachement sympa de pouvoir parler de tonton Bob.
L'émission du jour était réalisée à Paris par Nathalie Laporte et à Bayonne par Julien Fernando de France Bleu Pays Basque, que je remercie au passage. La semaine prochaine, nous accueillerons Archie Lee Hooker, qui n'est autre que le neveu du regretté John Lee Hooker et qui fait paraître ces jours-ci un nouvel album fort enthousiasmant intitulé Living in a Memory. D'ici là, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal. Carrefour.